VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes le lundi 2 septembre 2019 et il est 18h30 en temps universel. Bienvenue à l'écoute du monde aujourd'hui, Jacques Aristide dans la capitale américaine, à la une de l'actualité ce soir. Au Burkina Faso, les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé condamnés à 20 et 10 ans de prison dans l'affaire du coup d'État manqué de 2015. Le patron de l'ONU dément un repli en République démocratique du Congo. À Kinshasa, Antonio Guterres affirme que les Nations Unies n'abandonneront pas le peuple congolais.
On va tout faire pour améliorer ce qu'on fait et améliorer notre coordination pour faire face d'une façon plus efficace à la menace du terrorisme.
Au Cameroun, les rues des villes anglophones désertées après l'appel des séparatistes aujourd'hui, le jour de la rentrée scolaire. Le redoutable ouragan Dorian déferle sur les Bahamas et se dirige vers les États-Unis où des évacuations ont été ordonnées. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Le verdict tant attendu par les Burkinabés est tombé aujourd'hui. Le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, les deux hommes accusés d'être les cerveaux du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso. Eric Manirakiza pour les détails.
Gilbert Diendéré, 60 ans, ancien bras droit de l'ex-président Blaise Compaoré, a été reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État et de meurtre et condamné à 20 ans de prison ferme. Djibril Bassolé, 62 ans, ancien ministre des Affaires étrangères, a été, lui, reconnu coupable de trahison et condamné à 10 ans d'emprisonnement. Le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, lecteur du communiqué des putschistes à la télévision, a écopé pour sa part 10 ans de prison, dont 5 avec sursis. La dizaine de militaires membres du commando qui avaient arrêté les membres du gouvernement de transition ont aussi été lourdement condamnés. 19 ans de prison pour l'adjudant-chef Eloi Badiel, considéré comme le chef des opérations du putsch. 17 ans pour l'adjudant-chef Nebi Di Rambo, qui avait reconnu avoir mené le groupe, et 15 ans pour les autres. Sur les 84 accusés, 7 ont été acquittés. Les peines prononcées par le tribunal militaire sont inférieures au réquisitoire du parquet qui avait demandé la prison à vie pour Diendéré et Bassolé et 25 ans contre les membres du commando. Les avocats des deux hommes avaient plaidé l'acquittement, estimant que le procès n'a prouvé ni la culpabilité ni l'implication précise des deux hommes.
En Côte d'Ivoire, le parti d'opposition Front Populaire, FPI, qui avait refusé de siéger au sein de la nouvelle commission électorale, va revenir sur sa position après avoir obtenu un accord avec le gouvernement. Il y a une semaine, Pascal Afien-Guessan, président d'une tendance du FPI, avait jugé que la CEI, qui doit organiser la présidentielle de 2020, n'offrait pas de garantie d'impartialité. « Nous ne sommes pas loin de trouver un accord et de désigner un représentant », a déclaré Afien-Guessan au terme des pourparlers avec le gouvernement. Troisième et dernier jour de la tournée du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo. À Kinshasa aujourd'hui, Antonio Guterres a martelé que les Nations Unies n'abandonneraient pas le peuple congolais. Il a démenti un repli au profit d'autres missions au Mali, en République centrafricaine ou au Soudan du Sud. Il a lancé un appel à la communauté internationale pour s'unir et appuyer les Congolais et les autorités du pays. Le patron de l'ONU a tenu ses propos après son tête-à-tête avec le président Félix Tshisekedi. Antonio Guterres a parlé de la tenue avec le gouvernement congolais d'une conférence sur l'épidémie d'Ebola en novembre prochain, probablement à Goma, où il a entamé son périple samedi dernier. Nous y reviendrons tout à l'heure dans la Tranche Magazine. C'est la rentrée scolaire ce lundi dans les régions anglophones du Cameroun, mais les activités étaient paralysées par une nouvelle opération ville morte des séparatistes. Nathalie Barge.
La crise anglophone a entraîné la fermeture de la plupart des écoles dans ces régions depuis 2017. Pour la rentrée 2019, le gouvernement avait multiplié les appels à la reprise des cours. Alors qu'elles semblaient se profiler, les séparatistes ont renforcé leurs opérations ville morte pour 2 semaines. Le blocus a été suivi par la plupart des habitants dans le nord-ouest et le sud-ouest, selon le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. À Bouéa, chef-lieu du sud-ouest, les écoles et les commerces sont fermés dans la plupart des quartiers. Les militaires sont déployés à certains endroits où les accrochages avec les séparatistes sont fréquents. À Bemenda, chef-lieu du nord-ouest et épicentre de la contestation séparatiste, les rues sont également occupées par des militaires et peu de gens sont sortis, selon des habitants, dont certains ont fait état de coups de feu dans la matinée. Rappelons que le 20 août dernier, le tribunal militaire de Yaoundé a condamné à perpétuité l'indépendantiste anglophone Ayuk Tabe.
Au Kenya, les corps des 6 touristes et de leurs guides emportés par des crues hier dans un parc ont été retrouvés. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les 6 touristes tués, 5 Kenyans d'origine indienne et une indienne vivant au Kenya, faisaient partie d'un groupe de 13 personnes qui souhaitaient visiter à pied les gorges d'Oljoroa. D'après un témoin, il pleuvinait lorsque le groupe est arrivé à l'entrée des gorges, d'où est sortie l'eau qui a surpris les visiteurs. Les survivants ont pu s'échapper grâce à l'aide d'habitants. Dans cette tragédie, un homme a perdu son épouse de 28 ans, l'Indienne vivant au Kenya, ainsi que son cousin, l'épouse de celui-ci, leurs 2 enfants et un ami d'un des enfants. Hier, le service kenyan de la faune sauvage, qui gère le parc, a annoncé que les gorges ont été fermées au public avec effet immédiat en raison des pluies qui continuent de tomber. Le parc d'Elgate est célèbre pour avoir été un des décors du film Tomb Raider, le berceau de la vie, et pour avoir inspiré certains décors du dessin animé de Disney, Le Roi Lion. En 2012, ce genre d'accident a tué 7 personnes, elles aussi emportées par une crue dans les gorges d'Oljoroa.
Début de la campagne présidentielle en Tunisie aujourd'hui, 1 mois et demi après le décès du chef de l'État, Béji Caïd Essebsi. Pour les observateurs, il s'agit d'un scrutin aussi indécis que vital pour l'unique pays rescapé des printemps arabes de 2011 et qui doit encore consolider les acquis démocratiques. Prévue en novembre, cette élection aura finalement lieu le 15 septembre. Elle a été anticipée du fait de la mort le 25 juillet dernier du président Essebsi à 92 ans. Premier chef de l'État tunisien élu au suffrage universel direct. 26 candidats sont sur la ligne de départ, dont l'homme d'affaires Nabil Karoui, en prison depuis le 23 août dernier, après avoir été inculpé pour blanchiment d'argent. Ses soutiens ont accusé le chef du gouvernement, Youssef Chahed, qui est l'un de ses rivaux, d'en être l'instigateur.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il était redouté depuis plusieurs jours. L'ouragan Dorian vient de frapper les Bahamas avec une puissance jamais enregistrée dans l'archipel anglophone. Les autorités font état de dégâts catastrophiques. Le phénomène climatique poursuit maintenant sa route vers les États-Unis où des évacuations sont en cours dans plusieurs États côtiers, dont la Floride. Compte rendu, Abdourahman Zia.
Dorian est un ouragan extrêmement dangereux de catégorie 4, a indiqué le National Hurricane Center en précisant que ses vents étaient passés à 250 km/h. Bien qu'un affaiblissement graduel soit prévu, Dorian devrait rester un puissant ouragan au cours des 2 prochains jours, a ajouté le centre. Aux Bahamas, des milliers de maisons ont été emportées par des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h. Nous sommes face à un ouragan comme nous n'en avons jamais vu dans l'histoire des Bahamas, a déclaré le premier ministre Hubert Minnis. C'est probablement le jour le plus triste de ma vie, a-t-il ajouté en larmes. L'ouragan de catégorie 5 a touché terre dimanche à El Boque, sur les îles Abacos, dans le nord-ouest des Bahamas, pays composé de quelques 700 îles. Dorian poursuit sa trajectoire incertaine vers les États-Unis, où les autorités ont ordonné l'évacuation préventive de centaines de milliers de personnes dans les régions côtières. À Washington, le président américain Donald Trump a réuni les responsables des services d'urgence, évoquant un ouragan qui semble monstrueux. Selon la Croix-Rouge américaine, 19 millions de personnes vivent dans des zones qui pourraient être touchées en Floride, en Géorgie et en Caroline du Sud à partir de demain.
Les autorités américaines redoutent un lourd bilan dans le violent incendie au large de la Californie d'un bateau de tourisme où 34 passagers vraisemblablement piégés par les flammes pendant leur sommeil étaient portés disparus ce lundi. Le navire de 22 mètres de long aménagé pour des sorties en mer, dédié à la plongée, a coulé alors que les pompiers tentaient encore d'éteindre le feu. En Grande-Bretagne, Boris Johnson réunit en urgence cet après-midi les membres clés de son gouvernement à la veille d'une semaine cruciale au Parlement, ce qui alimente les rumeurs sur de possibles élections anticipées à l'approche du Brexit prévu le mois prochain. D'après les politologues, le Premier ministre conservateur pourrait appeler prochainement à des législatives s'il perd son bras de fer cette semaine contre les députés opposés à une sortie sans accord de l'Union européenne. La rentrée parlementaire, prévue demain mardi, s'annonce houleuse. Boris Johnson a provoqué l'indignation de nombreux députés en annonçant qu'il suspendrait le Parlement pendant 5 semaines, comme il en a le droit, et ce malgré la probabilité d'un Brexit sans accord le 31 octobre, la date prévue de la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Les élus opposés à un no deal, que le gouvernement envisage désormais ouvertement, accusent le Premier ministre de vouloir les bâillonner en réduisant le temps des dégâts. Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale ce soir. Et maintenant, résumé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nani Talani.
Depuis le 1er septembre, l'Égypte a annulé le taux de change mensuel de la douane introduit en janvier 2017. Les droits de douane sur les importations de toutes sortes seront estimés quotidiennement en fonction des taux de change des devises étrangères. Par ailleurs, le projet de loi sur les subventions aux carburants en Égypte passera à environ 5,15 milliards de dollars au cours de l'exercice 2018-2019 contre 7,31 milliards de dollars un an auparavant. Le surplus du cacao prévu pour la saison 2018-2019 s'établira à 18 000 tonnes, en baisse par rapport aux prévisions antérieures de 36 000 tonnes.
Et maintenant, pour un tour d'horizon de l'actualité sportive, nous retrouvons Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques, bonsoir à tous.
Première victoire africaine au mondial de basketball.
Oui, cet exploit est tunisien. Les Aigles de Carthage ont réussi à remporter leur première victoire en Coupe du monde de basket après avoir vaincu l'équipe iranienne 79-67 dans le cadre de la deuxième journée du premier tour. Les Tunisiens ont pu compter sur un bon Salah Mejri, auteur de 22 points et 15 rebonds. Au démarrage samedi, la Tunisie a perdu par un grand écart de 39 points contre l'Espagne, 62-101. Reste à jouer pour les Tunisiens un dernier match face à Porto Rico ce mercredi.
La Côte d'Ivoire, l'Angola et le Nigeria tombent encore.
L'Angola s'est de nouveau inclinée 61-91 face à l'Italie. Les Palancas Negras avaient déjà perdu lors de leur première sortie ce week-end face à la Serbie 59-105. Deuxième match infructueux aussi pour la Côte d'Ivoire, défaite 71-87 par le Venezuela. Les éléphants avaient plié les Chines lors de leur premier match devant le pays hôte, la Chine 55-70. De son côté, le Nigeria a offert un record à Luis Scola. L'Argentin devient le deuxième meilleur scoreur de tous les temps de la compétition après avoir mené l'Albi Céleste à la victoire 94-81. En clôture hier de la première journée, le Sénégal a été battu 47-101 par la Lituanie. L'équipe africaine la mieux classée au tableau général se qualifiera pour les Jeux Olympiques Tokyo 2020.
Messi, Ronaldo et Van Dijk, finalistes du prix FIFA The Best.
Le trio finaliste est le même que celui du prix du joueur UEFA de l'année qui vient d'être attribué au défenseur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk, vainqueur de la Ligue des champions. Le grand absent de cette liste, c'est sans conteste le Sénégalais Sadio Mané, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, co-meilleur buteur de la Première Ligue, finaliste de la CAN et auteur d'un bon début de saison. Les trois entraîneurs masculins désignés sont tous en Première Ligue. Jurgen Klopp, vainqueur de la Ligue des champions avec Liverpool, Mauricio Pochettino, finaliste malheureux de la C1 avec Tottenham et Pep Guardiola de Manchester City. L'attribution des prix aura lieu le 23 septembre à Milan.
Et Molefin Seki, nouveau sélectionneur des Bafana Bafana.
Le comité exécutif de la Fédération sud-africaine de football a approuvé la nomination de Molefi Ntseki à la tête des Bafana Bafana. Le technicien de 50 ans succède à Stuart Baxter, démissionnaire après la CAN 2019. Ntseki assurait l'intérim depuis 3 semaines. Il a été adjoint des sélectionneurs Chakes Machaba puis Baxter. L'ancien sélectionneur des moins de 17 ans a été préféré à Benny McCarthy ou encore à Steve Compila, qui convoitait également le poste. Ntseki débutera son aventure à la tête des Bafana Bafana le 7 septembre en amical face à la Zambie.
Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Il est l'heure maintenant d'aborder notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. L'un a servi dans l'armée, l'autre dans la diplomatie, condamné respectivement ce lundi à 20 et 10 ans de prison au terme du procès du putsch raté de 2015 au Burkina Faso. Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, généraux, personnalités différentes, étaient des barons du régime de Blaise Compaoré, qui lui a été renversé par la rue en 2014. Les deux généraux échappent toutefois à la prison à vie réclamée par le parquet. Gilbert Diendéré a été reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État et Djibril Bassolé de trahison. Le verdict est tombé après 19 mois d'un procès long et fastidieux, suspendu à de nombreuses reprises et qui concernait 84 accusés. Pour un décryptage, Bagassikoura s'est entretenu avec maître Guitenga Samuel Ibrahim.
La chambre de première instance du tribunal militaire a rendu son verdict. Il a prononcé donc des condamnations contre certains. Il y en a qui ont été renvoyés parce que tout simplement ils avaient été conduits devant la chambre par erreur. Je crois qu'il y en a 3. Il y a 7 qui ont été purement et simplement acquittés parce que les infractions qui leur étaient reprochées n'ont pas été déclarées constituées. Et il y en a aussi qui ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 20 ans. Donc, nous avons tous appris ce verdict et je crois que dans l'ensemble, le droit a été dit.
On voit que les peines prononcées par le tribunal sont inférieures aux réquisitions du parquet. Je rappelle que le parquet avait demandé la prison à vie pour Diendéré et 25 ans contre les membres du commando. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet?
Alors, je dirais que la juridiction a rendu son verdict selon son intime conviction. Les réquisitions du parquet ne lient pas la juridiction. Le parquet est une partie poursuivante. Et vous savez que la défense aussi est là pour défendre ses clients et apporter les preuves et les arguments juridiques pour attester que les infractions qui sont reprochées à leurs clients ne sont pas toujours constituées. Et également justifier que les peines ne sont pas toujours ce que le parquet a requis. Et dans l'ensemble, la chambre de première instance a analysé le dossier. Certainement, son intime conviction ne lui a pas permis de retenir donc des condamnations allant jusqu'à perpétuité. Je crois que c'est pour cela qu'elle a retenu ce qui lui semble conforme aux infractions commises et ce qui lui paraît légal dans la condamnation.
Alors, on est là dans le cadre d'un tribunal d'exception, le tribunal militaire. S'il y a appel, où est-ce qu'on va se retrouver prochainement?
Alors, vous savez que le tribunal militaire est composé de chambres. Il y a une chambre d'appel devant laquelle les décisions rendues par la chambre de première instance peuvent faire l'objet d'appel.
On restera toujours dans le cadre du tribunal militaire.
On restera toujours dans le cadre du tribunal militaire parce que le tribunal militaire dispose d'une chambre d'appel. Mais une fois que la chambre d'appel rend sa décision maintenant et qu'il y a les accusés qui ne sont pas toujours d'accord et qui veulent se pourvoir en cassation, en ce moment, ils vont aller devant la chambre judiciaire de la Cour de cassation.
L'avocat Guitenga Samuel Ibrahim, joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Les Béninois ont marqué hier le 25e anniversaire de la route de l'esclave. Il s'agit d'un projet élaboré par le gouvernement béninois en partenariat avec l'UNESCO. Lancée en 1994, l'initiative a pour objectif de rappeler la tragédie de la traite négrière. De Cotonou, le reportage de Ginette Fleur à Dandé.
Un quart de siècle d'existence pour le projet La Route de l'Esclave, un projet voulu par Haïti et plusieurs pays africains et qui a reçu le soutien de l'UNESCO. Lancée au Bénin en 1994, La Route de l'Esclave a pour objectif de briser le silence sur la tragédie de la traite négrière, mettre en lumière ses conséquences sur les sociétés modernes et contribuer à la culture de la paix. Mais y a-t-il nécessité à encore se concentrer sur l'esclavage? Oui, répond Ali Moussaïe, expert de l'UNESCO et président du comité d'organisation.
On ne peut pas faire n'importe quoi avec la question de l'esclavage. C'est en tout cas ce qu'à à travers la route de l'esclave, on essaye de conseiller le pays. On ne peut pas, sur le lieu de mémoire, faire n'importe quoi sur le lieu de mémoire. Il y a du recueillement, il y a du respect de la dignité des victimes. Et ça, c'est tout le travail qu'on essaie de voir pour aider le pays à trouver les moyens les plus appropriés. Et c'est très important que ceux qui viennent des Amériques, des Caraïbes, qui viennent sur le lieu de pèlerinage de l'Afrique, il faut aussi qu'eux, ils sentent que la douleur que leurs ancêtres ont sentie, ont vécue, est respectée aussi en Afrique.
Résistance, liberté et héritage est le thème de cette édition. Lancé en 1994 à Ouida, le projet La Route de l'Esclave est un des programmes phares de l'UNESCO qui a œuvré de façon déterminante à une meilleure connaissance de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs conséquences. Pour Vijaya Tilok, la présidente du comité scientifique de l'UNESCO pour ce projet, le défi est de taille.
On pense que l'Afrique doit vraiment faire face à sa diaspora et de vraiment, comme Ali a dit, de rester très sensible. Quand les gens viennent du diaspora et viennent ici, ils ont toutes sortes d'émotions mixtes. Bien sûr, c'est la joie d'être en Afrique, la terre des ancêtres, mais il y a aussi une grande tristesse. Et il faut vraiment prendre en compte les émotions, les points de vue de la diaspora et de vraiment prendre ça en compte quand vous allez créer un tourisme culturel. Mais il faut vraiment être à l'écoute des gens, que ça ne devienne pas un genre de commercialisation de l'esclavage.
Pour Charles Akiboudé, expert de l'UNESCO pour la classification des sites historiques, membre du comité scientifique de la route de l'esclave, briser le silence reste une nécessité pour poncer les plaies et aller de l'avant.
Je crois qu'il faudrait surtout qu'on montre que très souvent, de plus en plus, il y a une demande. Et ces lieux de mémoire, ces espaces de mémoire sont des compléments à l'éducation dans nos écoles. Et très souvent, on pense que ces lieux de mémoire, c'est pour les Européens, les gens qui ont des dollars ou des euros qui arrivent, alors que nos enfants eux-mêmes fréquentent ces lieux. Mais je pense que aussi nos États ont un devoir, nos responsables ont un devoir. On ne doit pas folkloriser la mémoire africaine.
Selon les autorités, le Bénin rêve d'être une véritable terre d'accueil et d'inspiration pour tous les descendants d'esclaves en quête de réponse et de ressourcement. De Cotonou, Ginette Fleur, dans les Pouvées au Afrique.
Au Mali, le chef du gouvernement vient d'achever une tournée de 5 jours dans la région de Kaï. Boubou Cissé a promis des travaux sur l'axe routier Bamako-Kaï. Plusieurs manifestations ont eu lieu la semaine dernière pour critiquer l'état de cette route de la capitale malienne. Le reportage de Kassim Traoré.
Suite aux manifestations relatives à la réhabilitation de la route Kati-Didjeni, le premier ministre malien a fait une visite de 5 jours dans la région de Kaï, première région administrative du Mali. Abdoulaye Koulibaly, porte-parole du collectif des manifestants du 23 août 2019.
La mise en état de fonctionnalité immédiate de la route nationale RN1, route très délabrée, causant des accidents récurrents, entraînant des pertes en vies humaines et une grande pénibilité et perte de temps pour les passagers. La reprise immédiate du trafic ferroviaire en vue de sauver les populations des villages riverains, aujourd'hui désemparés et laissés à leur triste sort. Et la diligence du paiement des salaires des cheminots à la veille de la rentrée scolaire 2019-2020.
Dans toutes les localités visitées, les populations ont insisté sur la reprise du trafic ferroviaire qui pourra booster l'économie locale. Mamadou Koulibaly, président des forces vives de Kaï.
Le chemin de fer du Mali, après le départ du colon, faisait la fierté de tous les Maliens. Jusqu'à la privatisation du chemin de fer, le calvaire des localités riveraines des rails n'a fait que grandir avec l'arrêt du trafic ferroviaire. Nous osons dire que la vie économique de ces localités s'est stoppée et ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes de ces dites localités payent de leur vie dans le désert et la mer Méditerranée à la recherche d'un mieux vivre, d'un Eldorado.
Certes, les femmes de la région de Kaï partagent les mêmes difficultés que les hommes. Cela n'a pas empêché Fatmata Nimaga de Nioro d'évoquer les soucis des femmes.
Les femmes de Nioro disposent d'un centre multifonctionnel mais non équipé depuis mars 2017. Un centre qui manque de tout. À cela s'ajoute la rareté, sinon l'absence des activités génératrices de revenus pour les femmes.
Certains responsables de la société civile se disent satisfaits des réponses données par le Premier ministre Bouna Batili, président de la société civile de Nioro.
Nous, on n'a jamais reçu une délégation comme ça, il y a bientôt 6 ans. Donc s'il a accepté faire ce trajet-là, venir nous voir, c'est qu'il a cœur de résoudre le problème.
Il est difficile de répondre au bien-être des populations sans aller vers elles. C'est pourquoi le Premier ministre malien a pris la route dégradée Kati Djidjeni en passant par Djema pour aller à Kaïville. Docteur Boubou Cissé.
La population a parlé d'autres préoccupations liées à la santé, liées à l'éducation, liées aux problèmes d'énergie. De retour à Bamako, nous allons voir avec les départements concernés pour prendre les dispositions nécessaires et répondre à ces besoins-là aussi.
Selon le Premier ministre, les travaux de la route Kati Djidjeni, objet de la contestation des jeunes de Kaï et Kati, débute cette semaine. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
En passant 3 jours en République démocratique du Congo, le patron de l'ONU a remis le plus grand pays d'Afrique subsaharienne, victime de la violence armée et d'une grave épidémie d'Ebola, parmi les priorités des Nations Unies. Antonio Guterres affirme que les Nations Unies n'abandonneront pas le peuple congolais à l'issue d'une rencontre ce lundi à Kinshasa avec le président congolais Félix Tshisekedi. Après 20 ans de présence onusienne en RD Congo, ces déclarations marquent la volonté d'inverser un certain attentisme depuis les élections fin l'année dernière au profit du Mali, de la Centrafrique et du Soudan du Sud. De Kinshasa, le reportage de Patrick Abega.
Les échanges entre les présidents Félix Tshisekedi et Antonio Guterres ont porté essentiellement sur l'évaluation de la lutte contre Ebola et la sécurité. Les deux personnalités ont loué le fait qu'Ebola soit curable grâce aux deux médicaments mis sur pied par l'OMS. Une avancée significative dans la riposte contre la 10e épidémie qui a déjà fait plus de 2000 morts dans les 3 provinces touchées dans l'est de la RDC. Ils ont également évoqué des difficultés qui rencontrent la riposte. Il s'agit par exemple du non-respect des engagements pris par les bailleurs des fonds. Selon Antonio Guterres, seulement 15% des besoins ont été répondus, d'où son appel à la mobilisation des ressources contre Ebola.
Dans le cas de l'Ebola, une semaine sans ressources, une semaine sans réponse, ça ne veut pas dire qu'on perd une semaine, ça peut dire qu'on perd la guerre avec l'Ebola, parce que les choses peuvent se développer hors contrôle. Alors j'ai fait un appel pour que les bailleurs de fonds puissent rapidement faire les paiements correspondants aux engagements qu'ils ont pris.
Sa visite en RDC intervient au moment où la MONUSCO fait l'objet des critiques dans la lutte contre les groupes armés, qui est d'aucun juge inefficace. Le secrétaire général rassure en misant sur un renforcement de la collaboration entre les forces onusiennes et les forces armées de la RDC. Ceci permettra de lutter efficacement contre les groupes armés, dont la DEF, qui sévit en RDC depuis plus de 20 ans et a fait des centaines de morts, dont des casquets bleus.
Il ne faut pas oublier que 27 soldats onusiens sont déjà tombés dans la lutte contre la DEF. On ne va commencer à partir de rien, mais on va tout faire pour améliorer ce qu'on fait et améliorer notre coordination avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour faire face d'une façon plus efficace à la menace du terrorisme.
Selon Antonio Guterres, la menace de la DEF est non seulement congolaise, mais aussi internationale. Quant au président congolais, il n'a fait aucune déclaration à la suite de cette rencontre. Patrick Abega pour VOA Afrique, Kinshasa.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Et voilà, point final à cette édition du Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. La mise en onde a été assurée par Georges Léonard Sagnot. À la technique, on avait l'aide de notre ami Nelson Herbert Lopez. Merci, chers amis fidèles de la VOA, de nous avoir accueillis chez vous ce soir. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine sur VOA Afrique. À très bientôt. Take care.